phrase, répondit Monse, rayonnante. Et comme elle mourait d'envie de déclarer au monde entier son bonheur tout neuf, elle raconta à sa sœur sa rencontre avec le Français et le baiser d'1h30 qui lui était descendu jusqu'à l'âme, ou monté selon l'endroit où l'on situe la chose, passant sous silence leur chavirement sur un lit d'hôtel et ce qui en avait découlé. Dans les jours, les mois et les années qui suivirent, Monse ne cessa de penser aux Français, qui ne donnerait jamais plus de nouvelles pour la bonne raison qu'elle n'avait pas eu le temps de lui confier ni son nom de famille, ni l'adresse de son domicile. Comment dormait-il? Que mangeait-il? Pensait-il à elle comme elle pensait à lui? Sur quel front se battait-il? Avait-il froid? Avait-il faim? Avait-il peur? Était-il vivant ou mort? Elle ne le saurait jamais, et se le demanderait des milliers de fois pendant les 75 années qui allaient suivre. Ces règles ne vinrent pas à la date prévue. Les jours passèrent, les règles ne venaient pas, et Monse dut admettre qu'elle était bel et bien embarazada. En espagnol, le mot est plus parlant. Embarazada de celui que ma sœur et moi appelons depuis l'enfance André Malraux, à défaut de connaître son nom véritable. Monse avait entendu son frère se réjouir de la légalisation de l'avortement, laquelle, disait-il, contribuait grandement à l'émancipation des femmes. Elle songea un instant y avoir recours, mais quelque chose en elle résistait à cette décision, et elle en reportait chaque jour l'échéance. Francisca finit par remarquer que quelque chose chez Monse clochait. Elle, qui chantait du matin au soir, car elle avait des dispositions inouïes pour le chant. Et je suis persuadée que, correctement prise en main par quelque impresario, elle aurait pu se faire un nom et mener une carrière de chanteuse, d'autant que ce don musical se joignait à une grande beauté, cela dit sans aucun parti pris, une carrière qui lui aurait permis d'améliorer considérablement l'état de ses finances et lui aurait ouvert les portes du grand monde et autres opportunités dont j'aurais pu profiter. Elle demeurait à présent silencieuse, le front dans ses deux mains, absorbée dans un rêve triste, tellement absorbée dans son rêve triste que ses plats brûlèrent régulièrement lorsqu'elle faisait la cuisine, et que les pois chiches étaient à chaque fois changés en escarbilles. Monse ne s'avisant de leur calcination que lorsqu'une fumée épaisse avait envahi la pièce. « C'est pour maman que tu as du chagrin ?» lui demande un jour sa sœur Francisca, alertée par la répétition des plats carbonisés. Monse se souvint tout à coup de sa mère, à qui elle n'avait donné aucun signe de vie en dépit de ses promesses. « Oui !» dit-elle, éclatant en sanglots. Francisca la prit dans ses bras, ce qui la fit pleurer deux fois plus fort. Et après 10 bonnes minutes de larmes et de mots incompréhensibles bredouillés dans le cou de sa sœur, elle lui avoua qu'elle attendait un enfant et qu'elle n'avait plus qu'un seul recours, se suicider. La solution du suicide, une fois écartée, assez vite, Monse n'envisagea pas un instant de rester plus longtemps dans la ville. Un élan irrésistible, animal, la poussait à aller rejoindre sa mère, bien qu'elle sût pertinemment ce qui allait advenir. Les lamentations sans fin, les prières lacrymales, les Dios mio, les Saintes Vierges de l'Enfant Jésus, les qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Un gris après-midi d'octobre, 6 jours après que le général Millán Astray eut jeté à la face de Unamuno, recteur de l'université de Salamanque, « À mort les intellectuels, vive la mort !» 6 jours donc, après cet appel au meurtre, qui allait devenir le cri de ralliement des nationaux, et 2 mois pile après son départ si heureux vers la ville, Monse revint au village avec un enfant dans le ventre, un poste de radio dans son sac, et la certitude au fond d'elle-même que les beaux jours d'été ne recommenceraient plus. À l'instant où elle aperçut les premières maisons, une envie de pleurer enfantine lui étreignit la gorge. Elle se dit qu'une partie de sa vie s'achevait à ce moment précis, et qu'elle laissait derrière elle à tout jamais sa jeunesse et sa joie. Elle eut l'impression qu'elle avait quitté le village depuis longtemps, longtemps, dans une autre histoire, dans une autre vie. Elle le trouva austère, triste au dernier degré, et si désert qu'elle eut le sentiment que sa présence y était de ce fait affreusement visible, exorbitante,